Les évaporés du Japon. C'est fou que ça touche particulièrement le Japon. Enfin, genre que ce soit... Parce que je peux comprendre qu'avec la pression et tout de la vie, parfois on va juste s'en aller et disparaître et tout. Et je trouve ça chouette. Vas-y, je vais refaire ma vie ailleurs et personne ne le saura jamais.
Bonjour à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver pour un 541e épisode de Zoom Zoom Zen, 2 heures chaque après-midi pour décrypter notre époque à travers ses phénomènes. Aujourd'hui, direction le Japon. Pays du soleil levant, ok, mais surtout des mangas rieurs comme Dragon Ball. Sauf que voilà, on va découvrir aujourd'hui la face sombre de la société japonaise en zoomant sur le phénomène des Johatsu, les évaporés du Japon. Ces hommes et ces femmes qui un jour, suite à un licenciement, une séparation, une humiliation, décident, la honte étant trop forte, de disparaître. Un suicide social avant une renaissance ailleurs, dans la banlieue de la ville où on habitait, ou plus loin, dans un village où parfois plusieurs Johatsu se retrouvent pour repartir à zéro ensemble. Une fois de plus, un sujet qui parle à notre rédacteur en chef Cyril Lacarrière, un homme qui lui aussi a parfois été tenté de disparaître. Nous sommes le 6 mai 2025 à Opède-le-Vieux, merveilleux village du Luberon, où Cyril a invité Suzanne, sa maîtresse du Sud, comme il l'appelle, pour lui dire que ça y est, c'est fini. Il ne peut plus assumer cette double vie. Le poids de la culpabilité vis-à-vis de ta femme, lui demande Suzanne. Non, le prix du TGV inouï. Mais que vont devenir nos enfants, César, Panis et Hugolin? T'inquiète, je vous enverrai des Western Union, je suis pas un monstre non plus, lui expliquait Cyril, qui, question romantisme, vous l'entendez, avait vu grand pour cet ultime dîner d'adieu en invitant Chico des Gypsy Kings à chanter My Way pendant qu'avec Suzanne, il savourait les petits farcis. Oui, Cyril a failli être le premier Johatsu français, enfin, après Xavier Dupont de Ligonnès, bien sûr, mais au dernier moment, il s'est ravisé. Partons à la rencontre de ceux qui, eux, ont sauté le pas. Zoom Zoom Zen, c'est parti.
France Inter. Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël.
Et bonjour Léna Mauger.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi. Léna, vous êtes journaliste, vous avez cofondé Cometa, une revue magnifique qui raconte les bouleversements du monde à travers les voix de celles et ceux qui les vivent de l'intérieur. Je signale d'ailleurs que cette semaine, vous sortez un numéro spécial Japon, avec entre autres des photos de ces fameux évaporés. Et vous avez donc sorti Les évaporés du Japon aux éditions Comment les arènes. Vous allez nous raconter ce phénomène qui touche quand même plus de 100 000 personnes par an au Japon. Juste le temps de vous présenter ceux qui, contractuellement, eux n'ont pas du tout le droit de disparaître, sinon je les retrouve, et ils vont passer un sale quart d'heure. En plus, ça sera pas compliqué de les localiser. Quentin, je lui ai foutu un AirTag. Et Manon, elle est toujours au cornichon, avec Pierre Courade. Manon Mariani, Quentin, lui, bonjour.
Bonjour à tous.
Bonjour. J'étais où ce week-end?
Vous étiez au Grand Prix de France de moto.
Ah, bien vu.
Vous l'avez mis sur Instagram.
Il marche bien l'AirTag.
On a vu 100 stories.
Oui.
Une centaine de stories, toutes plus passionnantes les unes que les autres. On y reviendra dans la longueur demain. C'est pas le temps de les disséquer toutes.
Toujours cette petite avance.
Et petit temps de retard. À vos côtés, Léna Mauger, elle est ravie de vous rencontrer, même si elle me disait hors antenne qu'elle aurait préféré Léna Situation. Oui, elle est très showbiz, très showbiz. Ce qui fait qu'elle a un très beau carnet d'adresses. Oui. Manon, vous
mais
nous indiquez.
J'étais là avant.
Ah oui, c'est vrai.
C'est bien de le noter.
Il faut le rappeler. Léna, si tu nous écoutes, Léna Mauger était là avant. Manon, oui. Vous nous indiquez l'autre personne à suivre dans cette affaire.
Oui, et aujourd'hui, un showrunner américain qui adore parler de personnes disparues, voire de personnes évaporées. Il a notamment signé une série magnifique sur le deuil dont vous mettez très souvent la BO, Mathieu.
Il essaie de chercher
le moment de vide dans le regard de Mathieu.
Normalement, on tease pour. Voilà. Oui, mais c'est The Leftovers, direct, oui, Mathieu.
C'est place à la spontanéité aussi, Manon.
Oui, bravo.
Face à vous, Léna, lui, s'il lui reste un minimum de dignité, il devrait être bientôt le premier évaporé de l'Orne. En effet, n'importe quel Japonais qui aurait appelé à l'antenne en direct un des plus importants cardinaux de l'Église catholique, Tagel, alors qu'il s'appelle Tagle, aurait de lui-même choisi de disparaître. Non, 12 jours après le drame et la crise ouverte qu'il a déclenchée entre Paris et le Saint-Siège, il est toujours là. S'agrippant, telle une moule au rocher, à son fauteuil de présentateur du micro-trottoir. Tout ça n'est pas à votre honneur. Attends, Quentin.
Ça se trouve, c'est à cause de Quentin qu'il n'a pas été élu.
Ah oui.
Mais c'est ça la raison.
Mais c'est clair. Mais
bien sûr.
C'est évident maintenant que vous le dites.
C'est à cause de vous,
c'est
Quentin.
À cause de vous.
L'humiliation. Monseigneur Aveline.
Oui.
C'est à cause de vous. Voilà. Présentez vos excuses à la France.
Pas du tout. Allez, on y va.
Au programme de votre micro-trottoir, Quentin.
Oui, qu'est-ce qui pourrait vous faire disparaître ou vous évaporer? Est-ce qu'il y a des évaporés à la française et qui sont-ils? Ce sont les questions que j'ai posé aux gens, Mathieu Noël, dans la rue. On va écouter ses réactions avant 17h30 dans ce micro-trottoir complètement à la rue, bien sûr.
Voilà qui me donne du Mathieu Noël maintenant. On sent que la fin de saison est proche. Le mercato média est là. Appelons les gens par leur nom. Vers 16h30, il n'y a pas qu'au Japon que les gens disparaissent du jour au lendemain. La Rousseau, Béatrice Schoenberg, Patrick Sabatier. En France aussi, chaque année, des gens disparaissent mystérieusement. Et tout le monde s'en fout. Le Zoom Zoom Test leur rendra hommage. Juste avant 17h, Marine Leonardi nous dira si elle aussi pourrait tout quitter pour fuir la charge mentale. Mais d'abord, Léna Mauger, vous avez écrit une première édition de ce livre il y a 10 ans déjà. À l'époque, c'était très compliqué d'enquêter sur ce phénomène des évaporés. Pour quelle raison ?
Alors, je vais vous donner un exemple. En fait, quand on travaille à l'étranger, on travaille avec des fixeurs.
Oui.
Donc, c'est des gens qui vous organisent le reportage sur place. Et quand je contactais des fixeurs, je donnais une date, un tarif. Et au moment où je parlais du sujet, Yohatsu, il n'y avait plus personne. Leur grand-mère était morte, ils n'étaient pas disponibles. Et en fait, je me dis que ça allait être très compliqué de retrouver des disparus si personne ne voulait travailler avec moi. Et en fait, petit à petit, les gens qui ont accepté d'enquêter pour nous étaient soit des Japonais qui avaient déjà travaillé à l'étranger, soit des gens qui avaient suffisamment d'ouverture pour lever ce tabou de société.
Ça reste un tabou, mais là, pour cette nouvelle édition, y a les langues se sont déliées. Vous avez eu des témoignages suite à la première édition ?
Alors, je suis un peu devenu le perdu de vue, je crois, des disparus japonais. Non, ce qui nous a marqué, c'est que donc, le livre est sorti en France. Il a été traduit aux États-Unis et aussi en Corée avant cette édition. Et des Japonais l'ont lu. Et donc, on a reçu plein de messages de Japonais qui disaient « J'ai perdu ma sœur, mon frère, mon cousin. Est-ce que vous pouvez nous aider à les retrouver ?» Et là, en fait, la couverture de cette nouvelle édition, c'est un illustrateur japonais qui vit au Japon, qui s'appelle Noritake. Et lui, pour illustrer cette disparition, il n'a pas été gêné, mais il en a fait un peu un symbole. Et donc là, vous voyez un homme, et si vous tournez la page, il y a un petit chat noir. En fait, il dit « Pour moi, la disparition, c'est la solitude. » Et je ne peux pas vous le montrer avec des humains, mais je peux vous le montrer avec un petit chat qui est tout seul au milieu de la ville.
Lui, il a donc eu l'opportunité, à un moment de sa vie, de s'évaporer dans le Luberon. Trois beaux enfants l'y attendaient, à l'ombre d'Olivier Centenaire et d'une femme presque aussi centenaire, elle aussi, mais très sympa, Suzy, qu'on salue au passage. Il a fait le choix de rester sur Paris, finalement. Le regrettera-t-il ? L'avenir nous le dira.
Être à vos côtés chaque jour. Mais...
un bonheur.
Voilà, c'est un bonheur quotidien, Mathieu.
Alors Cyril, vous que ce sujet interpelle personnellement, les évaporés du Japon, d'où ça sort ? Ne me répondez pas du Japon avant de vous lever et de quitter le studio comme un prince, parce qu'on les connaît, vos happenings géniaux. J'ai envie vraiment de savoir d'où ça sort.
Les évaporés du Japon, vous avez commencé à le dire, les yohatsu, qui veut dire littéralement évaporer. Donc, jusqu'ici, tout se tient. C'est à partir des années 60-70 que ce phénomène commence à être documenté, mais il faudra attendre 20 ans plus tard, les années 80, pour qu'on parle réellement et publiquement de ces évaporés. Ça ne viendra pas des sociologues pour la bonne et simple raison que le sujet est tabou dans le pays. Il échappe donc au champ de recherche habituel. C'est grâce aux enquêtes de journalistes d'investigation comme le vôtre, le travail d'écrivains et des travailleurs sociaux sur le terrain, qu'on prend connaissance de leur existence, ou plutôt en l'espèce de leur disparition. On repère des villages de yohatsu dans la périphérie de Tokyo ou d'Osaka, ou dans des zones moins habitées du nord du pays. Des articles apparaissent dans des magazines, genre tabloïdes, qui s'intéressent à la face cachée de la société japonaise. On y évoque ces gens qui fuient la honte, mais sans les rattacher encore à ce moment-là au terme de yohatsu.
Et alors à quel moment est-ce que le tabou n'est plus vraiment tabou ?
C'est dans les années 90 que ces évaporés deviennent une réalité sociologique et politique. La faute à l'éclatement de la bulle économique au Japon, faillite des entreprises, chômage des salariés, explosion de la précarité, accroissement de la pression sociale. Pour certains Japonais, cela s'assimile à du déshonneur. C'est comme ça qu'on en arrive à ce suicide social. Ces évaporés vont longtemps rester inconnus hors des frontières du Japon et c'est vous, Léna Mauger, qui allez participer à révéler leur existence, ici en France et ailleurs. Qui sont ces évaporés du Japon ? Pourquoi est-ce qu'on quitte tout ? Qui s'évapore ? En existe-t-il ailleurs ? C'est ce qu'on va voir durant une heure.
Merci Cyril. Léna Mauger. Cyril parlait de suicide social. Dans votre livre, vous parlez de suicide sans mort. Le point commun de tous ces évaporés, c'est la disparition totale des écrans radars.
Bon, déjà, bravo, hein, on va vous embaucher pour la communication du livre, parce que vous avez vraiment parfaitement bien résumé le phénomène de société.
Il est assez fort,
il a un peu de métier, 3 ans maintenant de chronique.
Le doux ça sort
à 3 ans. Mais non, mais vous avez raison, enchaînez.
Et oui, en effet, donc il y a la disparition totale qui est le suicide. Et en fait, disparaître, c'est une manière d'exister dans son propre pays sans identité. Donc en fait, c'est un peu les clandestins de l'archipel japonais qui vont faire tous les métiers que personne ne veut faire. C'est la part d'ombre du Japon. Et donc pour aller les chercher, on était dans les limbes, dans le monde de la nuit.
Point important pour être bien concret en ce début d'émission, c'est ce que je disais dans l'introduction, c'est absolument n'importe quoi, parce que c'est pas pour se réinventer ailleurs, on peut pas s'évaporer pour imaginer une vie avec un nouveau métier excitant et tout ça, c'est forcément des gens qui ne vont plus avoir d'identité, donc forcément exercer des métiers où on leur demande peut-être pas leur pièce d'identité, des petits métiers.
Bon, en fait, on a tous ce fantasme, vous le disiez avant, s'évaporer, refaire sa vie au soleil, avec votre maîtresse.
Ouais, par exemple, avec celle de Cyril.
Et en fait, un des évaporés nous dit, mais s'enfuir, c'est courir à la mort. Et en fait, quand on fuit quelque chose. Et donc, on fuit par-dessus tout la honte, le sentiment d'avoir échoué quelque part. Et donc, en fait, c'est quelque chose qui vous colle à la peau. Vous ne pouvez pas vous reconstruire quand vous avez tout abandonné derrière vous.
Mais du coup, ils exercent quel type de métier après ?
Alors, en fait, il y a tout un ensemble de métiers qu'on peut faire quand on n'a pas vraiment d'identité dans un pays, ou au fond qu'on exerce son identité, mais que je pense qu'on en reviendra, que vos proches ne vous cherchent pas. Mais donc, on peut travailler dans le monde de la nuit auprès des Yakuza. Ils peuvent travailler sur les chantiers à la journée, vous savez, quand on vient vous chercher avec un petit camion pour vous faire bosser. On peut travailler dans la restauration. Chez nous, on le sait, il y a toute une économie qui tourne parce que des gens acceptent des boulots que personne ne veut faire. C'est la même chose au Japon.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël sur France Inter.
Quand le déclassement est trop honteux, tout quitter pour se réinventer ailleurs. Zoom cet après-midi sur une pratique qui concerne chaque année des milliers de Japonais, les évaporés du Japon. C'est le livre de notre invitée Léna Mauger. Léna, un point peut-être sur le profil de ces évaporés. Est-ce que c'est plutôt des hommes, des femmes ? Est-ce qu'il y a un profil sociologique ?
En fait, ça peut être tout le monde autour de cette table. On disparaît pour toutes les raisons. On disparaît parce qu'on a raté un examen, on disparaît parce qu'on a perdu son travail, on disparaît parce qu'on a des dettes. Alors ça a été la raison principale dans les années 90, parce qu'il y a des milliers de Japonais qui s'étaient retrouvés endettés auprès de sociétés de titres quand la bulle immobilière et financière a éclaté. Mais en fait, on disparaît vraiment parce qu'on a perdu la face à un moment de sa vie.
Il n'y a pas un âge où ça arrive plus qu'à d'autres, ou même des changements de décennies, j'ai envie de dire, des crises de la trentaine ou de la quarantaine, non ?
Non, il y a presque autant de profils que de Japonais, quoi. Après, moi, dans les histoires qui m'ont marqué, c'est par exemple un ingénieur qui perd son travail, fait semblant d'aller au bureau pendant 10 jours avec son petit attaché-caisse le matin et embrasse sa femme, et puis laisse de l'argent et au bout de 10 jours s'en va simplement parce qu'il a honte de dire qu'il a perdu, qu'il a perdu son emploi.
Et les femmes qui partent aussi parce qu'elles sont victimes de violences conjugales, je pense que ça existe aussi, non ?
Oui, il y a aussi évidemment des cas de violences conjugales. Il y a eu, alors beaucoup plus à l'époque, aussi des femmes qui partaient parce qu'en fait elles avaient été mariées dans un mariage arrangé, qu'elles n'avaient pas choisi leur mari au Japon. Et en fait, c'était à une époque où c'était honteux de divorcer ou leur quitter. Et donc, il y a notamment une femme qui quitte son enfant et son mari, tout simplement parce qu'en fait, elle est tombée amoureuse d'un autre homme et que dans le village, elle n'ose pas dire « j'aime quelqu'un d'autre ».
Mais comment, concrètement, on peut disparaître ? Aujourd'hui, à l'heure du numérique, des passeports biométriques, si on réussit à disparaître, c'est que nos proches acceptent de ne pas nous chercher.
Oui, alors il y a plusieurs raisons. Il y a une raison pratique, c'est-à-dire que pendant des années, les fichiers n'étaient pas aussi bien recoupés qu'aujourd'hui. Là, il y a une loi qui est en train d'être votée, qui centralise les données administratives, donc ça va devenir, avec notamment votre photo sur votre pièce d'identité, donc ça va être plus compliqué de disparaître. Mais il y a aussi une raison donc sociale, sociétale, qui fait que quand la honte s'installe dans la famille, vous pouvez déclarer une personne disparue. Mais vous n'avez pas forcément envie que vos voisins, vos collègues soient au courant. Et donc, il y a une phrase qui, en japonais qui dit « c'est comme ça, on n'y peut rien ».
C'est fou ce sentiment de honte et de déshonneur qu'on comprend peut-être pas, nous, Français, parce qu'on peut avoir honte de perdre son emploi en France, évidemment, mais peut-être pas à ce point-là, au point de se retirer de la société. Qu'est-ce que ça dit de la culture japonaise qu'on n'est pas forcément capable de comprendre, nous, assez loin ?
En fait, je pense que c'est très difficile, là notamment quand on a fait même un numéro entier sur le Japon, quand on n'est pas japonais, moi j'ai toujours peur d'être pleine de clichés en fait sur cette culture qui est si différente que la nôtre. Je pense qu'en ayant fait des allers-retours pendant 5 ans pour travailler sur ce sujet-là, je ne serai jamais spécialiste du Japon, donc je ne pourrai jamais répondre comme un spécialiste de la culture japonaise. Après, j'ai justement essayé de contourner le sujet des disparitions pour comprendre ce qui, dans cette société japonaise, pouvait exercer cette pression et ce sentiment de honte. Donc je peux vous donner un exemple, c'est que je suis allée dans un endroit où des cadres supérieurs sont envoyés pour être, entre guillemets, redressés quand leurs résultats n'étaient pas assez bons. Et donc je me suis retrouvée dans en fait, dans un camp de redressement, avec des cadres qui, le matin, devaient faire de la gym, ensuite lever un drapeau, et ce qui était...
Un camp militaire, un peu, quoi.
Un camp un peu militaire. Et donc, c'est vrai que cette pression au travail fait aussi partie de cette difficulté, au fond, à vivre.
Vous débutez le livre par la rencontre d'un déménageur du soir. De quoi s'agit-il ?
Alors, il y a des sociétés de déménagement tout à fait classiques, avec donc des devantures, des petits camions, qui, la nuit, sont des déménageurs du soir. Donc, il y en a une, par exemple, qui s'appelle la Société de débarras en tout genre. Et le patron de cette société, que j'ai rencontré un soir, où il a un peu laissé planer le mystère sur son itinéraire. Mais en fait, moi, j'ai pensé qu'il laissait planer un mystère, mais c'est parce que lui-même avait honte. Et il a fini par nous raconter que s'il avait créé cette société qui aide les Japonais à disparaître, c'est que lui-même avait disparu.
Mais c'est devenu un business, du coup ?
Oui, en fait, c'est... alors, en particulier... dans les années 90, où des gens devaient fuir parce qu'ils fuyaient des dettes et donc la mafia.
Là, il y a un petit business qui
là, il y avait vraiment un business qui s'est développé.
Et aujourd'hui
Et aujourd'hui, alors il y a toujours des déménageurs, mais ils n'ont pas forcément besoin de partir très rapidement la nuit, d'embarquer les affaires, les enfants. Et ils disaient, certains voulaient prendre la machine à laver, mais je leur disais, c'est pas la peine. Parce que c'est,
ah oui, non, si, tu courant, laisses les, mais... si tu laisses les enfants, laisse la machine à laver. Et au moins cette courtoisie-là. Si jamais un jour vous voulez vous aussi vous évaporer, sachez qu'en France, une entreprise de déménagement propose le service discrétion totale. Moyennant un paiement 100% en liquide, la société Lui Déménagement vous propose le forfait déménagement furtif. Tout est furtif, le déménagement, évidemment. Effectué de nuit par des professionnels de la discrétion et même la TVA, furtive elle aussi puisque tout se faisant en cash, vous ne la paierez pas. Quentin, entre deux déménagements, vous pratiquez encore l'art du micro-trottoir. C'est vrai que vous faites aussi déménagement. Non mais nos auditeurs doivent savoir.
Vous allez mettre dans le mal un jour.
C'est possible, si l'URSSAF nous écoute. Quentin, vous vous évaporez parfois, vous ?
Il m'arrive d'en avoir très envie, comme quand j'avais demandé à cette jeune femme si elle était retournée vivre chez ses parents.
Ça vous est déjà arrivé ?
Bah non, parce que ma mère est morte.
Et quand c'est le cas, je m'évapore dans la ville et ses mille rues. D'ailleurs, c'est comme ça que je rencontre ce jeune homme. Première réaction au thème du jour de Zoom Zoom Zen.
Les évaporés du Japon. Pas du tout. Ah, c'est super.
Oh, super, c'est triste un peu, non ?
Oh oui, mais en même temps, c'est l'idée de déjà qu'on choisit pas de naître, que c'est quand même la première imposition de nos parents, de mère nature, de tout ce qu'on veut. C'est une manière peut-être de posséder sa vie, de se posséder soi-même et de maîtriser qui l'on est, qui l'on veut devenir. Donc, je sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose de poétique quand même.
Je lui demande s'il pourrait disparaître, lui. Il me dit que c'est plus profond que ça, il philosophe.
Ben peut-être, en tout cas, je pense que la vie, il faut toujours tenter de s'émanciper de soi-même, de se resculpter, de se reconstruire, de devenir soi-même et de devenir l'autre en même temps. Le besoin d'échapper à un certain confort, d'échapper à ce qu'on connaît déjà. Parfois, on a besoin de juste devenir quelqu'un d'autre, d'être autre chose, de représenter autre chose pour soi-même et pour les autres. Et je pense que c'est un exercice qu'on doit tous et toutes s'imposer d'une certaine manière. Le confort est dangereux.
Donc de disparaître de son confort ?
Ouais, peut-être. Et de son carcan, de sa carapace, de son corps, de je ne sais pas.
Bon, là, on est clairement dans le fantasme autour de la disparition.
Vision un peu romantique.
Elle flâne dans la rue, une chemise de garçon, un casque audio vissé sur les oreilles. Bonjour.
Bonjour, bonjour.
Vous êtes en avance ?
Je suis en avance, très en avance.
J'ai souvent des gens en retard, moi.
Eh bah, pour une fois, je fais partie de ceux qui sont en avance.
Je lui demande si elle connaît...
Les évaporés du Japon. C'est censé être une expression, ça ?
Disons que c'est un phénomène.
Mais oui. Ok, c'est fou que ça touche particulièrement le Japon, enfin genre que ce soit... Bah en vrai moi je trouve ça chouette de se dire que... Parce que je peux comprendre qu'avec la pression et tout de la vie, parfois on va juste s'en aller et disparaître et tout. Et je trouve ça chouette, vas-y je vais refaire ma vie ailleurs et personne ne le saura jamais.
Qu'est-ce qui ferait que vous auriez envie de disparaître vous ?
Je sais pas, mais moi je pourrais pas disparaître, j'aime trop mes proches et genre... Tous les gens et tout, il me manquerait trop, moi je pourrais pas disparaître. Ou dans ce cas-là, je disparaîtrais, mais vraiment, je mettrais au courant beaucoup de personnes, donc je disparaîtrais pas vraiment.
Oui, bon, ça serait pas grand-chose. Ouais. Elle me raconte qu'elle revient d'un séjour en isolement, toute seule à la campagne, mais qu'en rentrant...
Mais après, la vie nous rattrape. Genre devoir travailler, devoir gagner de l'argent, etc.
Elle est là, cette pression ?
Bah ouais, bah oui, parce qu'en fait, tu peux pas juste te contenter de rien faire, en vrai. La société est faite pour que tu gagnes de l'argent, métro, boulot, dodo et que...
Voilà. Je change de trottoir maintenant et en passant devant l'étal d'un bouquiniste et des quais de Seine, un jeune homme m'interpelle, il semble surpris de voir mon micro.
Mais non mais je sais pas, pour moi c'est pour les anciens, c'est à l'ancienne France Inter.
C'est la première radio de France.
Ah ouais? Ah bah pas pour moi.
Écoute quoi toi?
Moi Skyrock, hein. La base.
Eh hein. La base, forcément. Casquette enfoncée, veste un peu tachée, je demande à Gavin s'il a déjà eu envie de disparaître.
Je dois vraiment dire les trucs ou... Ouais, quand je me suis farcelé, quand j'ai dû aller en prison.
T'en es où aujourd'hui?
Là aujourd'hui je suis à la rue, hein. Je suis à la rue, là je chine mon oseille là, mais voilà. Hein.
Tu dors dehors?
Ouais. Bah, dans une station de métro, ça va, mais...
Gavin est jeune, mais malheureusement sans abri depuis un certain temps. Que pense-t-il de ceux qui quittent tout du jour au lendemain?
Ouais, parce qu'en fait, la société, c'est... J'ai le droit à les insultes ou pas? Parce que la société, c'est tellement une société de bâtards, où genre l'être humain est tellement un fils de pute, qu'il y en a marre. Même moi, il y a des moments où je pète des câbles ici, dans Paris. Mais ouais, non, je comprends que le citoyen peut divaguer, peut avoir l'envie de partir...
Avant de le laisser filer, je lui pose une question.
Ta famille, elle comprend que tu te sois barré?
Bah non, je sais pas, non. Je sais pas, non, parce qu'ils savent même pas où je suis à l'heure actuelle. Mais je suis en contact avec plus personne de ma famille. Et c'est même mieux comme ça. J'ai plus de téléphone, plus de réseau. Et c'est parfait, hein.
T'as encore des papiers, tes cartes d'identité?
Non. Non, ça, dès que je suis arrivé, il y a quoi, il y a... Là, ça va faire 4 ans à Paris, là. Et depuis, je les ai pas refait, j'ai pas envie de les refaire non plus.
En discutant avec lui, je me rends compte qu'en quelque sorte, lui aussi s'est évaporé. S'évaporer, c'est pas disparaître sans raison, c'est parfois s'absenter d'une société dans laquelle on ne se reconnaît plus.
Léna Mauger, on vient d'entendre ce micro-trottoir et ce dernier témoignage de Gavin. En fait, il y a des évaporés en France aussi.
Oui, il y a des évaporés dans tous les pays du monde. Je pense que la pression sociale, elle est partout, on la ressent tous. Et effectivement, dans les évaporés au Japon, il y a aussi plein de gens qui sont au fond en rupture de la société.
Mais est-ce que la différence, peut-être, au Japon, c'est que les évaporés, quand ils arrivent dans un endroit, on sait qu'ils sont évaporés, on les accepte comme tels, peut-être plus qu'en France, où ils sont simplement SDF?
Bah, je pense que le flou, les limbes dans chaque société sont des endroits où on accueille un peu tout le monde. Donc je pense qu'au Japon, la différence, c'est qu'il y a des quartiers en fait, où ces gens vivent. Donc par exemple, ce jeune garçon, peut-être qu'il aurait échoué à Sanya, où il y a des petits hôtels à la journée, où au fond, il aurait trouvé des gens comme lui, un peu en marge, en rupture, qui...
Il y a des lieux refuges.
Il y a un système... ce qui est intéressant avec ces quartiers, par exemple au Japon, c'est qu'on ne connaît pas du tout, mais au Japon, il y a une caste, comme en Inde, les intouchables, s'appellent les Burakumin. Et c'est des gens qui sont au plus bas de la société et qui, traditionnellement, faisaient les boulots que personne voulait faire. Par exemple, toucher les animaux morts, travailler dans les cimetières, etc. Et donc, ils se sont aussi regroupés dans des quartiers qui étaient des quartiers qui n'existaient même pas sur les cartes. Quand vous regardez une carte de Tokyo, le quartier de Sanya, c'était un quartier considéré comme honteux. Et donc, au fond, en enquêtant sur les évaporés, c'est aussi, depuis l'époque Edo, la part d'ombre d'un pays et cette part d'ombre que la société ne veut pas voir. Et c'est en ça que je compare régulièrement à nous, nos sans-papiers, nos clandestins, les gens grâce auxquels la société tourne, mais qu'on ne veut pas voir.
Mais pourquoi, en fait, choisir cette méthode alors qu'ils pourraient parler, je ne sais pas, à un psy, à leur famille, etc. C'est une méthode radicale, ils n'ont pas le choix dans leur tête?
Alors ça, il y a un ancien policier à la retraite qui a créé une association sur une falaise, qui est une falaise où les gens viennent se suicider.
Oui.
Ça s'appelle la falaise de Tojimbo. Et il est là, il a monté un peu des brigades de volontaires qui arpentent la falaise. Et quand il voit des gens qui s'approchent du bord, donc il y a les touristes qui viennent.
Il faut savoir bien distinguer touriste du potentiel
morbide, mais aussi justement les gens qui viennent se suicider. Et aux gens qui viennent se suicider, il leur tape dans le dos et leur dit « attends une minute ». Et il nous a dit exactement, en fait, là, il leur pose exactement la même question que vous venez de me poser. Il leur dit « mais pourquoi au fond vous voulez disparaître ?» Toutes les solutions existent dans la société. Vous avez des dettes, il y a des gens qui peuvent vous aider, vous pouvez faire des prêts. Vous avez perdu votre travail, vous pouvez en retrouver un autre. Et en fait, je pense que quand ce poids, c'est comme une cocotte minute, c'est-à-dire que tout d'un coup, vous ne pouvez plus supporter et vous dites « mais la seule solution, c'est de partir de chez moi, de claquer la porte et peut-être de laisser un petit mot.
» France Inter, Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
Alors que nous zoomons cet après-midi sur les évaporés du Japon, j'aurais, alors du quiz, une pensée émue pour celui qui a failli être l'évaporé du Luberon. Car oui, Cyril, notre rédac-chef, avait donc sérieusement songé à quitter Paris pour rejoindre sa Suzy, au cœur du massif des Alpilles, ce qui lui aurait permis d'échapper à ses multiples créanciers, le salon de massage Tintin, le Buffalo Grill de Pont-au-Corbon et le carrossier Auto 2000, chez qui il avait fait peindre la pochette de l'album Hartung Baby de U2 sur le capot de son Toyota RAV4. Loin du tumulte parisien, il se serait fait passer pour Paco, un exilé chilien dont la famille aurait fui Pinochet. Seulement voilà, le courage, comme souvent, lui a manqué. Il n'a pas franchi le pas. En route pour un Zoom Zoom Test spécial disparition, réapparition ou pas. On commence par une première disparition, celle des 10 points de Quentin Lui, qui se sont envolés mercredi dernier suite à une réflexion terriblement insolente. J'ai oublié laquelle, évidemment, mais ouais. Pour que ça soit 10 points de pénalité, ça doit être très grave.
En tout cas, Quentin, 10 points, là,
vous n'avez que 5 questions pour refaire votre retard. Top. Célèbre pour son éternel
cigare. Les calculs ne sont pas bons.
Et ses controverses, cet avocat médiatique a été maoïste, anticolonialiste. Il a défendu une ribambelle de personnes assez moches. Il a un trou dans son CV. De 70 à 78, personne ne sait ce qu'il est devenu, alors qu'il était pourtant plutôt partant dès qu'il s'agissait de raconter ses exploits. S'agit-il de Robert Badinter, Henri Leclerc ou Jacques Vergès? Merci à l'invité de ne pas donner la réponse avant que j'ai commencé à énumérer les réponses. C'est une grave erreur de notre invité qui perd 10 points. Elle est à moins 10 et c'est Manon qui l'emporte.
Merci,
effectivement.
Léna.
Réponse C, sacré personnage que maître Jacques Vergès. La liste de ses clients ressemble à s'y méprendre au top 10 des numéros d'affaires sensibles les plus podcastés. Omar Radad, Carlos, Klaus Barbie, Jacques Médecin. Et la vie de l'avocat lui-même a été entourée de mystères puisqu'il a donc disparu pendant 8 ans. Exactement comme Cyril entre 2001 et 2009. Nul ne sait où il est allé. Une des pistes serait qu'il aurait disparu avec une énorme somme d'argent, des honoraires liés à la défense d'un dictateur congolais et qu'à la mort de ce dictateur, la tête de Vergès aurait été mise à prix. Mais bon, rien n'a jamais été prouvé. Partons plutôt pour la campagne anglaise. Tout près de la charmante gentilhommière de l'écrivain Xavier Leclerc où il nous a tous invités l'été prochain, je vous le rappelle. Nous sommes le 3 décembre 1926 au bord d'une petite route qui mène à un étang. Une voiture va être retrouvée là, abandonnée, portière ouverte et phare allumée. À bord, un manteau et un permis de conduire vont permettre d'identifier que la personne qui a disparu est célèbre. Célébrité ici même, puisqu'il s'agit, attention, du roi d'Angleterre, George V, du chancelier Winston Churchill, ou de la romancière Agatha Christie.
B. Ah, oh, j'ai crié.
Réponse A, le roi.
C'est le roi lui-même qui avait disparu en 1926. On s'en souvient, les tabloïds, tous les journaux étaient en ébullition.
En 26.
La bonne réponse, Manon?
J'ai dit B.
La réponse B, c'est une catastrophe.
C'est Agatha Christie, du coup.
C'est Agatha Christie, évidemment. Oh oui, une bonne réponse. Attention, Léna est à moins 9. Elle remonte. Agatha Christie.
J'avais la bonne réponse tout à l'heure, j'ai eu moins 10.
Oui, mais parce que vous avez parlé trop tôt.
C'est pas juste.
Effectivement,
pas juste.
Agatha Christie était déjà tellement célèbre à 36 ans que 1000 policiers, 15 000 volontaires étaient partis à sa recherche. Lorsqu'on la retrouve 11 jours plus tard, les médecins diagnostiquent une légère amnésie, peut-être due à un choc émotionnel lié à ses déboires conjugaux. Et toute sa vie, elle affirmera ne rien se souvenir de ces 11 jours. Un blackout total, une marianoche.
Facile,
comme on dit dans le petit milieu de la neurologie. Mais
sauf que ça avait duré 25 jours.
Arrêtons de digresser.
J'en fais plus.
Top à la question avec notre prochain disparu. Dernier d'une fratrie de 7 garçons élevés à la dure avec des tranches de vie qui ressemblent étrangement aux années collège de Pierre Courade. Écoutez plutôt ce témoignage. Ma mère se promenait du matin au soir avec une ceinture de cuir à la taille. J'ai souvent éprouvé le contact de cette lanière de cuir qui parfois m'a fait saigner. Philippe de Dieu le veut, puisque c'est de lui dont on parle, journaliste, animateur, aventurier, disparaît en 1985. Mais comment? En tentant de rejoindre Fort Boyard à la nage, en descendant le fleuve Zaïre en rafting, ou dans un accident de voiture pendant le Paris-Dakar?
B.
C.
Le rafting.
Dans un accident de voiture pendant le Paris-Dakar, confondé avec Balavoine peut-être.
Là, c'est un hélicoptère.
Très bien. Ah oui, c'est vrai.
Je vous le dis.
C'est vrai qu'il y a
une culture générale.
C'est juste une petite hélice en plus.
Une hélice en plus, effectivement. Bonne réponse de Manon Mariani. Réponse B, même si Dieu le veut, a failli également se noyer en tentant de rejoindre le Fort Boyard à la nage.
Mais non.
On apprendra, après sa disparition par son frère, que Dieu le veut était en fait un agent de la DGSE. Animateur télé n'était qu'une couverture, d'où les nombreuses spéculations qui entourent encore aujourd'hui ce soi-disant accident de rafting. Oui, en tout cas, depuis ses révélations, je ne regarde plus Nagui de la même façon.
Je comprends pas ce qui justifie qu'il ait voulu tenter d'aller à la nage à Fort Boyard.
Il voulait rencontrer le
Mais simplement, Quentin, quelque chose qui vous est complètement étranger, qui s'appelle le goût du défi.
D'accord.
Lui, comme vous à Fort Boyard.
Lui, j'ai fait Fort Boyard. Je crois que j'ai toujours le record de l'épreuve du café. Vous pouvez vérifier. Lui, il était presque aussi riche que Nagui. Je vous présente Michael Rockefeller, l'héritier de Nelson Rockefeller, le mania de l'immobilier américain. Nous sommes en 1961. Ce fils à papa a toute la vie devant lui. Une vie faite de voyages en jet privé, de piscines, de champagne. Malheureusement, il va disparaître dans des circonstances tragiques. D'après vous, que va-t-il lui arriver? Il va être kidnappé et son père refusant de verser la rançon, il reviendra chez lui, mais en petit Tupperware. Il va chuter du 112e étage du nouveau building Helsinki qu'il inaugurait en grande pompe, où il va être bouffé par des anthropophages lors d'un voyage d'études en Océanie.
Ah, c'est dur. B.
C, allez.
Le coup de disparaître de son immeuble, moi je trouve ça génial.
Ah, il tombe pendant l'inauguration, Manon.
C.
Pensez que le fils de Rockefeller a été bouffé par des cannibales.
Je sais pas.
Mais c'est une bonne réponse, allez. Mais oui. Fascinante tribu anthropophage que celle des Asmat d'Océanie. Oui, Michael Rockefeller était un anthropologue de renom formé à Harvard, et quand il se rend en Océanie en 61, c'est pour partir à la rencontre d'une tribu cannibale,
mais
afin
oui,
justement de déconstruire les mythes associés à ce type de tribu. Son but, établir si oui ou non ces gens mangent d'autres
c'est
êtres
horrible.
Humains. Il semblerait ironiquement qu'il ait obtenu sa réponse. La légende dit...
Il a pas pu l'écrire.
La légende
dit... le gonzo nul, quoi.
Juste avant d'être dégusté en ossobuco, Michael aurait entendu la voix de Denis Brognard lui murmurer...
Et leur sentence est irrévocable.
La aussi, victoire de Manon Mariani. Bravo Manon.
Sur la musique de Koh-Lanta, c'est cool.
Ça vous fait toujours plaisir, je le sais.
Ça va, c'est bon.
Oh.
Ça commence à se voir, je vous le dis.
Ça va.
Et à s'entendre.
Vous êtes nuls.
Alors, on reste dans le gai savoir, on parle suicide social aujourd'hui. Pratique assez courante au Japon, la journaliste Léna Mogé, notre invitée pour son livre Les Évaporés du Japon, qui vient de paraître aux éditions Comon Les Arènes. Je signale également la revue Cometa, si le Japon était le centre du monde, ça vient de sortir. Léna, il y a un évaporé dans votre livre qui vous dit « Je n'ai pas songé à une nouvelle vie, je me suis enfui ». C'est tout. Il n'y a pas un projet derrière cette évaporation. C'est vraiment une alternative au suicide.
Ah, j'ai rencontré aucun évaporé qui avait vraiment pensé sa vie d'après. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont planifié leur départ pour essayer de faire plus ou moins de peine à leurs proches. Mais personne ne s'est dit voilà mon plan B, quoi. Ou ma nouvelle comète. Ou mon, Et après, la plupart multiplient en fait les petits boulots. Et justement mettre du temps à retrouver quelle vie faire, quelle personne rencontrer, et c'est très très dur de se reconstruire, même de se remarier, de faire des enfants, parce que tous m'ont dit mais on peut pas se reconstruire sur un mensonge.
Il y a de la culpabilité chez certaines personnes que vous avez rencontrées, certains qui regrettaient peut-être de s'être évaporés, qui avaient honte cette fois-ci de revenir.
Il y a toujours de la culpabilité quand on laisse des gens derrière soi. Et il y a aussi beaucoup de peine pour ceux qui sont revenus de pas être soit reconnus, soit de pas être acceptés. C'est-à-dire de voir que les proches ont attendu, ont fini par refaire leur vie. Et après, vous avez toujours en fond ce fantasme de dire je serai jamais oublié.
Et en fait, vous l'êtes.
Il y en a qui s'évaporent à plusieurs, qui partent en famille, qui partent avec leur mari, enfin, je sais pas, avec leurs amis.
Alors justement, au moment là de l'explosion de la bulle économique, quand les familles étaient endettées, il y en avait pas mal qui partaient en famille. Et donc moi, j'en ai retrouvé, et c'était une famille de Burakoumine, donc cette caste vraiment tout en bas de la société. Mmh. Et eux, ils avaient un petit magasin de gyoza, un petit restaurant de gyoza. Mmh. Et en fait, ils avaient emprunté, ils ne pouvaient pas rembourser les dettes. Et ils avaient vraiment une honte absolue. Et donc, eux sont partis par une société de déménagement du soir, sont partis en famille. Mmh. Et s'est reconstruit, lui, à travers les arts martiaux.
Quentin ?
Heureusement que vous êtes mis à la recherche, parce que vous dites que la police japonaise ne cherche pas les disparus, et c'est cette situation qui met en colère la famille de Tiffaine Véron, une Française portée disparue au Japon depuis 2018.
Ah oui.
Il n'y a jamais eu d'enquête japonaise afin de tenter de la retrouver. Ça veut dire quoi ? Que disparaître, c'est tellement ancré dans la culture japonaise qu'on ne lance pas de recherche ?
Alors, il peut y avoir des recherches quand il y a un soupçon de crime. Mais quand il n'y a pas de soupçon de crime, il n'y a pas d'enquête qui est ouverte. Et je vais vous raconter une petite histoire. C'est en fait au bout de 7 ans, quand vous avez disparu et qu'il n'y a pas de trace de vie, vous êtes déclaré pour mort.
Aux yeux de l'État.
Aux yeux de l'État. Et donc, en fait, j'ai rencontré des disparus.
Qui étaient morts.
Qui n'existaient plus.
Administratif du terme. Vous écoutez France Inter, je suis stupéfait. Je suis tout simplement chaos debout après toutes ces révélations.
Sans mots.
Vous écoutez France Inter, il est 16h45. Elle, c'est son permis de conduire qui va bientôt s'évaporer si elle ne fait pas un peu plus gaffe sur la route, notamment du côté des Goudes. Manon...
Je l'ai toujours, il est toujours là.
Oui. Mais attendez, vous allez peut-être recevoir une lettre. Manon, la personne à suivre.
Je vous présente Damon Lindelof. Il a 52 ans, il est américain et il est le showrunner de l'une des séries les plus populaires des années 2000. Lost, évidemment, qu'il a co-créé avec J.J. Abrams, une série devenue culte, acclamée par les critiques, suivie par des millions de fans. Il y a eu un avant et un après Lost dans le monde des séries. Et justement, c'est cet après Lost qui nous intéresse aujourd'hui chez Damon Lindelof. Car 4 ans après la fin de la série qui a déçu la majorité des fans,
certes,
il revient avec un nouveau show, cette fois-ci sur HBO. The Leftovers, ceux qui sont restés. Une série beaucoup plus poétique et intimiste que Lost, adaptée du livre du même nom. Son pitch fait en quelque sorte écho à notre sujet du jour, puisqu'il raconte l'histoire de 2% de la population qui a disparu d'un coup. Alors là, évidemment, il y a l'aspect paranormal en plus, mais ce n'est pas du tout le sujet de la série. Pendant 3 saisons, le scénario ne cherche pas à comprendre ce qu'il s'est passé, mais à parler de ceux qui restent, ceux qui doivent continuer à vivre leur vie alors qu'ils ont perdu des proches. C'est notamment le cas du personnage de Nora, interprété par Carrie Coon, qui a perdu son mari et ses enfants. Comment se reconstruire après ? Avec The Leftovers, Damon Lindelof a voulu explorer la foi, la quête de sens et le deuil aussi. Il dit que Lost était plus une série axée sur l'intrigue, alors que The Leftovers l'est davantage sur les sentiments. C'est une série sur un traumatisme et la guérison après un traumatisme. Pendant 3 saisons, les personnages essaient en fait de guérir. Certains s'en sortent par la religion, d'autres par la culpabilité, et pour les plus chanceux, c'est l'amour qui va leur redonner goût à la vie. The Leftovers a été plébiscité par les critiques du monde entier. Certaines disent même que c'est la meilleure série de tous les temps. 2 ans après la fin, Damon Lindelof a ensuite sorti une autre masterpiece sur HBO, Watchmen. Une seule saison, mais de très grande qualité. Depuis, Damon Lindelof est assez discret. On sait qu'il va co-scénariser la prochaine série sur le héros de DC Comics, Green Lantern. Mais ça fait quand même 6 ans que ses fans attendent sa prochaine création. On espère pour bientôt.
Merci beaucoup Manon d'être venue sur The Leftovers, peut-être la meilleure série de tous les temps. C'est vrai que c'est très
beau. C'est génial.
J'ai pas tout compris, mais c'est très très beau.
Vous êtes pas assez philosophique.
Léna Mogé, les familles de ces évaporés, ceux qui restent finalement, comme dans The Leftovers, est-ce qu'on en parle au Japon ? Est-ce que ces familles en parlent ou c'est un tabou tel que quand quelqu'un dans sa famille s'est évaporé, on garde ça pour soi ?
En fait, vous parlez des sentiments dans The Leftovers, et moi ce qui m'a passionnée en faisant cette enquête, c'est d'avoir des très longs témoignages des familles qui parfois n'avaient jamais raconté leur histoire parce que c'était tabou au Japon. Et au fond, en parlant à une journaliste étrangère dans un livre qui allait être publié en France et pas au Japon, il y avait une espèce de sorte de catharsis.
Mmh. Vous étiez leur psy, quoi.
J'irai pas jusque-là, parce que j'espère qu'ils auront d'autres manières, d'autres occasions d'en parler. Mais en tout cas, oui, on pouvait passer 3 jours ensemble. Et l'histoire qui m'a vraiment le plus bouleversée, en fait, c'est un père et le frère du disparu qui ont continué pendant des années et des années à aller sur un quai d'où était parti un bateau avec cet enfant qui simplement partait en voyage. Et ils n'ont jamais retrouvé de traces. Il y avait juste son sac avec ses lentilles de contact. Et il n'avait aucune raison de partir. Et donc, chaque année, ils continuent à activer tout le monde, à activer des détectives, à aller... Il y a une espèce de désarroi absolu autour de cette question, mais ce n'est pas possible qu'il ait choisi de disparaître sans nous le raconter avant.
Mais que fait la police ? Rien.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël, sur France Inter.
Il faudrait plus qu'un lancement, une émission entière pour résumer le week-end de Pierre Courade.
Ah oui, c'est vrai.
Imaginez simplement Freddie Mercury en 1986 décidant pour se remettre du concert de Queen à Wembley de s'offrir une petite randonnée à vélo à la rencontre des beaux paysages, des petits vins blancs et aussi de quelques drag queens. Le tout en alternant le bas de survette Adidas rouge que portait justement Mercury à Wembley et un mini short rouge que Freddie devait porter aussi mais dans d'autres circonstances. Le plus fou c'est que toutes ces images sont visibles sur le compte Insta Pierre Courade. Bonjour Pierre.
C'est pour concurrencer Hugo Clément Sport.
Ah oui, bah là vous le concurrencez très fort. Il tremble. Alors tout ce qu'on s'est dit sur les évaporés du Japon, Pierre, résumé en 1 minute chrono.
Et les évaporés, c'est un phénomène propre au Japon, un pays où près de 100 000 personnes disparaissent par an, un chiffre inédit dans le monde. Des disparitions sur lesquelles s'est penchée notre invitée, Léna Mogé. Elle a enquêté et s'est heurtée à un mur. Difficile en effet de parler de ce sujet dans l'archipel. L'omerta qui entoure ces personnes qui quittent tout du jour au lendemain est une des particularités qui entoure ces évaporés du Japon. Il s'agit de personnes ayant fait faillite, criblées de dettes ou voulant fuir une situation compliquée dans leur vie. La mentalité japonaise implique une discrétion absolue quand il s'agit de difficultés personnelles. Au lieu d'en parler aux proches, on préfère fuir, disparaître, s'évaporer littéralement. Notre invité nous a appris que des sociétés de déménagement du soir, c'est leur nom, prospèrent sous l'idée de devoir partir discrètement sans éveiller les soupçons des voisins et des créanciers. Revenus au bas de l'échelle, les évaporés doivent recommencer une vie, essayer de survivre grâce à l'économie souterraine. Léa Mogé nous a aussi expliqué que le système était jusque récemment d'identification au Japon était moins centralisé que chez nous. Il est donc plus facile de passer inaperçu, facile également de se cacher quand on sait que les familles elles-mêmes honteuses de compter dans leur rang en évaporé ne lancent pas forcément des recherches. Voilà comment les évaporés s'évanouissent dans la nature. Je suis à peu près perturbé par ce que vous veniez de dire, Mathieu.
Bah alors, mon Pierrot !
Bah ouais. Mais je me dis aussi que c'est peut-être là-bas que devrait chercher Manon, hein, qui n'a plus de nouvelles du jeune homme qui a embouti sa voiture ce week-end.
C'était un jeune homme ?
Oui.
Ah,
18 ans, apparemment.
18, ah oui, d'accord, un jeune conducteur.
J'ai son numéro.
On parlera de cet accident automobile dans la deuxième partie de l'émission. Merci Pierre, et surtout merci d'avoir mis un pantalon. Marine Léonard, une fois n'est pas coutume, parce que la coutume c'est que vous râliez. Oui. Le thème de l'émission a éclairé votre vie d'une lumière nouvelle.
Oui, les évaporés, ces Japonais donc, qui, frappés par la honte, décident de disparaître de la circulation, parfois pour s'installer seulement à 500 mètres de chez eux. C'est dingue. 15 ans que je pensais que mon ex m'avait ghosté, alors qu'en fait il vit à Château d'Eau. Il m'attend, et en même temps je le comprends, la barre était si haute. Non mais ça fait un an, vous avez toujours pas les bons réflexes, c'est dingue. Non mais je vous préviens, si vous continuez les humiliations, je vais m'évaporer aussi. Et j'ai dit ça à Cyril, il m'a dit bah vas-y, barre-toi, il y a le mouf qui recrute. Quelle enflure. Léna Moget, vous avez enquêté 10 ans sur les gens qui voulaient disparaître. Alors soit ils avaient très mal disparu, soit vous êtes combien ?
Un peu moins,
d'accord. Vous êtes Tatiane. Alors soit ils avaient très mal disparu, soit vous êtes très forte. Non mais franchement, le gars, il se casse la tête à retirer toute son épargne. Bon Mathieu, te fais pas chier à disparaître, ça va te prendre beaucoup trop de temps. Il déménage, il change de coupe de cheveux, il passe de chez Orange à SFR. Et ça, vraiment, pardon, mais c'est la méga tannée, Léna. Vous avez déjà essayé de changer d'opérateur. Même Dupont-Ligonnès, il a gardé son numéro. Et vous, vous débarquez un beau matin avec les caméras, genre « Coucou, c'est pour l'émission de Mathieu Noël !» Non mais tain, les boules. Je suis venue avec Quentin, lui, il a quelques questions pour vous. Il a sur le pâté en croûte. Non, mais tout plaqué pour finir dans un micro-trottoir, la décence. Évidemment, je plaisante. Vous avez fait un travail d'investigation remarquable sur ce phénomène d'évaporation qui est typiquement japonais. Rapport au sens de l'honneur qui est exacerbé là-bas. Ah bah, il n'y a que 2500 évaporés par an dans l'Hexagone contre 100 000 au Japon. Bah, c'est sûr qu'en France, le sens de l'honneur n'est pas vraiment au même endroit. En France, si tu détournes de l'argent, bah, t'es présidentiable. Voilà. En France, il y a même des gars, ils agressent des femmes, ils se font condamner et au lieu de se faire tout petit, ils sont là. Bon, je vais bien écrire un petit bouquin. Bon, voilà, c'est le bon moment pour faire un peu de téloche. Et ils se pointent avec la même tête. Hein. La honte, elle est juste dans le titre du livre, nulle part ailleurs, apparemment. Après, on ne sait pas. Attendez, on ne sait pas. Il y a peut-être des agresseurs, ils ont essayé de changer de bled et les villages n'en ont pas voulu. Hein. Le Perche accueille déjà tous les Parisiens en burn-out reconvertis profs de yoga. Il y a moyen, ils voient arriver un prédateur sexuel, ils sont là, on est déjà plein en fait. On aimerait juste des gens normaux ici. Déjà que le Mathieu Noël, il a construit à 50 km, hein, avec le Cyril Lacarrière qui se pointe tous les week-ends déguisé en Mao Zedong, ça suffit. Non mais moi je trouve ça bien en réalité, la technique japonaise de disparaître, c'est un peu le rêve de tout le monde. Moi, mon feed sur les réseaux sociaux est rempli de meufs qui t'annoncent qu'elles vont faire une déconnexion numérique en mode attention, plus que 2 jours avant que je quitte Insta, mais barre-toi, plus aller, on s'en fout, on est ici pour liker des culs et des photos de chats, donc tu n'apportes rien à la communauté, Ségolène. Surtout que tu vas revenir dans 3 jours, ça s'appelle pas disparaître, hein, ça s'appelle juste être en edge dans le Vercors. Apparemment, c'est principalement des hommes qui se barrent. Mais non, je tombe des nues. Il y a même des entreprises qui leur permettent de déménager dans la nuit, comme par hasard. Non mais franchement, mais tous les moyens sont bons pour ne pas donner le biberon à 2h du matin.
Oui.
Moi, je ne peux même pas me barrer aux toilettes sans que mes enfants me harcèlent à leur changer de ville. Alors que mon mari, quand il y est aux toilettes, hein, mes filles considèrent que papa s'est évaporé. Et non, je ne filerai pas la blague davantage parce que je n'ai pas encore atteint ce niveau. Je vais faire des blagues sur l'épée de mon mari. Les femmes qui disparaissent au Japon et ailleurs dans le monde sont principalement des femmes qui subissent des violences. Et elles ont bien raison, les femmes, de s'évaporer, parce que quand on est une femme victime de violences, c'est malheureusement la seule façon d'avoir l'attention de la police.
Merci beaucoup Marine Léonardi pour cette chronique doublement engagée. On vous retrouve la semaine prochaine dans Zoom Zoom et pour une tournée des Zéniths en 2027 pour votre spectacle Mauvaise Graine Billetterie pour 2026 et 2027 sur marineleonardi.com. Merci beaucoup Léna Moget. Je rappelle votre livre, hein, pour aller plus loin, évidemment, Les Évaporés du Japon qui vient de paraître aux éditions Comont Les Arènes. Il y a aussi la revue Cometa sur le Japon. Si le Japon était le centre du monde, votre réponse, oui, j'imagine.
Vous allez le découvrir.
Évidemment, achetez-le.
Zoom Zoom Zen.